Alléluia. Soyez bienvenus. Cela fait quelques semaines que nous réfléchissons avec, j'espère, une aspiration à ce renouvellement, à cette vie d'en haut, fondée sur ce verset que j'espère que vous connaissez par cœur, mais que je vous invite ce matin à relire, 2 Chroniques, chapitre 7. 2 Chroniques, chapitre 7, à partir du verset 13. 2 Chroniques, chapitre 7, verset 13. Quand je fermerai le ciel et qu'il n'y aura point de pluie, quand j'ordonnerai aux sauterelles de consumer le pays, quand j'enverrai la peste parmi mon peuple, si mon peuple, sur qui est invoqué mon nom, s'humilie, prie et cherche ma face, et s'il se détourne de ses mauvaises voies, je l'exaucerai des cieux, je lui pardonnerai son péché et je guérirai sans pays. Mes yeux seront ouverts désormais et mes oreilles seront attentives à la prière faite en ce lieu. Maintenant, je choisis, c'est Dieu qui parle, hein, et je sanctifie cette maison pour que mon nom y réside à jamais. Et j'aurai toujours là mes yeux et mon cœur. Amen. Et toi, si tu marches en ma présence, comme a marché David, mon père, etc., etc., etc. Si mon peuple, ça vaut le coup, non? Un petit mot, 2 lettres. Si. Si. Si oui. Même si c'est la peste, même s'il y a la sécheresse, même si à l'extérieur c'est les sauterelles, c'est le ravage, c'est... Mon peuple, lui, connaîtra quelque chose de particulier. C'est mon peuple. Et la dernière fois, il y a 2 semaines je crois, on avait vraiment travaillé sur cette notion de chercher ma face. Tiens, d'ailleurs si tu peux mettre la diapo. Chercher la face de Dieu. Chercher la face de Dieu, c'est un apprentissage. Ce n'est pas seulement être là, avoir une conscience religieuse, mais c'est véritablement chercher la personne de Dieu. C'est ça qui est important et que nous devons réaliser. Dieu n'attend pas de nous que nous soyons des religieux ou des formalistes. Ce que Dieu attend de nous, c'est que nous recherchions sa présence, sa personne. Non pas seulement sa main, mais sa personne. Et d'ailleurs, quand on a lu le passage, Dieu ne dit pas « j'ai envoyé ma main », mais il dit « là sera mon cœur ». Et quand nous, enfants de Dieu, nous invoquons le nom de Dieu, nous invoquons le nom de Jésus, nous devons nous attendre à sentir sa présence, sa personne. Non pas « Seigneur, s'il te plaît, exauce, exauce, exauce », mais « Seigneur, toi, toi, toi ». Alors c'est vrai, c'est un apprentissage. L'apprentissage de ne plus chercher à être exaucé, mais l'apprentissage à chercher sa présence. C'est une disposition de cœur différent, une sensibilité. Il faut accepter par la foi ce que Dieu dépose, parce que la présence de Dieu, c'est une atmosphère, c'est un royaume. C'est cette justice, cette paix, cette joie par le Saint-Esprit. Et nous devons accepter cette sensibilité spirituelle. On va peut-être y revenir tout à l'heure d'ailleurs. Il faut trouver cet équilibre entre ce que le Seigneur met sur notre cœur et nos pensées. Mais Seigneur, je cherche ta face, je cherche ta volonté, je cherche que ce soit toi qui m'inspire. Il faut rester simple, honnête, aimant. Et surtout, c'est la plus grande des sources de bénédiction. Amen. Celui qui, jour après jour, connaît ce face à face avec Dieu, cette relation, cette présence, il a tout. Il a tout. Il a tout. Je crois que c'est intimement la vocation de l'Église de vivre ça. On a tous lu au moins une fois le psaume 133. Ah, qu'il est bon, qu'il est agréable. Pour les frères d'être ensemble. C'est là que Dieu envoie là. Il y a Et c'est pour ça que je vous rappelle presque le préambule de toutes nos méditations de cette série. Un renouvellement personnel, mais un renouvellement à vivre aussi collectivement. Collectivement. Et je suis intimement persuadé que c'est la vocation de l'Église de vivre également ces temps de chercher ma face. D'ailleurs, et je reviens au texte, si mon peuple cherche ma face, si mon peuple... Donc il y a une réalité non seulement personnelle de chercher la face de Dieu, mais il y a aussi une direction collective, communautaire. Nous, nous mettons beaucoup l'accent, n'est-ce pas, sur cette recherche personnelle. Et nous avons raison. Mais quand on lit le Nouveau Testament, n'êtes-vous pas frappé? Comme c'est surtout la vie communautaire qui est mise en avant. Chaque jour, ils se rassemblaient. Chaque fois qu'il y a un événement, ils sont ensemble. Alors nous, on est là, avec notre esprit peut-être un peu trop individualiste français. Chercher, il faut prier, il faut des temps personnels. Amen, il faut. Mais est-ce que on ne manquerait pas un projet de Dieu en omettant de nos vies ces recherches de la face de Dieu ensemble, communautairement? Parce que l'exemple que nous avons du Nouveau Testament, c'est ça. Et c'est principalement ça d'ailleurs. L'essentiel, mes bien-aimés, c'est d'être dans la présence du Seigneur. Qu'importent les moyens. C'est pas les moyens qui importent. Oh, c'est ma fille qui a dit ça? Ah non, c'est lui, d'accord. Oh, un nouveau mot. C'est pas les moyens qui importent, c'est pas la forme. Mais ce qui importe, c'est notre disposition de cœur. Il y a une étude qui a été faite. Alors maintenant, je pense que mes données sont petites à l'époque. Cette recherche était faite sur plus d'un millier d'églises sur toute la surface de la Terre. Donc c'est pour ça que je dis plus d'un millier, parce que je pense que l'enquête continue et se précise. Et en fait, c'était sur les éléments qui favorisent le développement de l'Église. Voilà. En gros, des gens se sont posé la question, qu'est-ce qui fait que des églises grandissent, prospèrent, se multiplient, et pourquoi il y en a d'autres qui les jettent? Et pas seulement d'un point de vue culturel, mais voilà, d'un point de vue mondial. C'est quoi les points communs? Je vous passe tous les détails de cette analyse. Mais il y a un point qu'ils disent. Ils disent que ce n'est pas la forme qui importe. Que l'Église soit plutôt traditionnaliste ou plutôt moderne, c'est pas du tout ça. Que les chants soient plutôt dans les J'aime 3 ou dans le Chœur et Cantique, c'est pas ça le problème. Que la manière soit plutôt voilà, de manière bien organisée, ou que ce soit plutôt chacun fait comme il veut en short et en tongs, c'est pas ça le problème. Il dit par contre, ce qui fait développer une Église, c'est son enthousiasme. C'est sa joie, c'est son envie, c'est son empressement, c'est sa faim, c'est sa soif. Et ça, qu'importe les formes. On est d'accord là-dessus? C'est toujours une question de disposition de cœur. Une disposition de cœur. Vous connaissez Jean 3,16? Allez, dites-le moi là. Dieu a tant aimé le monde. Voilà, je me doutais que par cette question, il y aurait la suite qui découlerait. Est-ce que vous connaissez Apocalypse 3,16? Pourtant, je suis sûr que oui. Alors, je vous invite à...
C'est sur les 10 églises.
Ouais. Apocalypse 3. Et vous connaissez ce verset. Alors, je vais vous le dire honnêtement, ce n'est pas du tout un thème que je voulais aborder. Je ne voulais pas du tout aborder ce sujet-là. Même vendredi, en travaillant sur la prédication de ce matin, j'ai dit, oh, je savais que c'était à me titiller l'esprit. Je dis, non, Seigneur, on va parler d'autre chose. Ouais, à part que le samedi, il a fallu tout foutre à la poubelle. Je dis, ok, Seigneur, on aborde le sujet. Alors, Apocalypse, chapitre 3. Écrit à l'église de Laodicée, verset 14, mille excuses, 3, 14. Voici ce que dit l'Amen, le témoin fidèle et véritable, le principe de la création de Dieu. Je connais tes œuvres. Je sais que tu n'es ni froid ni bouillant. Puisses-tu être froid ou bouillant ? Ainsi ?
Et là, c'est là que vous allez vous apercevoir que Apocalypse 3.16, en fait, vous le connaissez.
Ainsi ? Parce que tu es tiède et que tu n'es ni froid ni bouillant, je te vomirai de ma bouche. Parce que tu dis, oh, je suis riche, je me suis enrichi, je n'ai besoin de rien. Et parce que tu ne sais pas que tu es malheureux, misérable, pauvre, aveugle et nu, je te conseille d'acheter de moi de l'or éprouvé par le feu, afin que tu deviennes riche, et des vêtements blancs, afin que tu sois vêtu, et que la honte de ta nudité ne paraisse pas, et un collier pour oindre tes yeux, afin que tu voies. Moi, je reprends et je châtie tout ce que j'aime. Aie donc du zèle et repens-toi. Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui, je souperai avec lui et lui avec moi. Celui qui vaincra, je le ferai asseoir avec moi sur mon trône. Comme moi, j'ai vaincu et me suis assis avec mon Père sur son trône. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. Donc nous sommes concernés, nous faisons partie de ces églises. Alors, avant d'entamer et de définir ce qu'est la tiédeur et tirer quelques leçons pour nous, je veux surtout dire ce que n'est pas la tiédeur. Parce que je crois que le diable est celui qui est capable, avec un langage très biblique, d'amener les enfants de Dieu à la culpabilité. Et je suis persuadé, et c'est une des raisons pour laquelle je résistais à vouloir parler de ce sujet-là. Voilà ce mot « tiède » qui apparaît une fois dans la Bible, qui a culpabilisé des tonnes de chrétiens. En se disant « mais je suis pas à fond, je suis un tiède, le Seigneur va me vomir. Oh, je suis pas ce que je devrais être. Oh là 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 là, Dieu doit pas m'aimer, il va me vomir. » Et le diable est celui qui, avec un langage très biblique, veut dire « oh, attends, t'es un tiède, toi. Oh, regarde, n'avance pas dans ta vie. T'es un tiède. » Et avec tout ce que ça implique comme raisonnement et comme culpabilité et comme faux raisonnement dans notre esprit. Qu'est-ce que n'est pas un tiède ? Un tiède, ce n'est pas un passage à vide dans notre vie. On connaît tous des passages à vide. On connaît tous des moments où on a besoin de se ressaisir. On sait que on a besoin de reprendre le chemin de la prière, la méditation. On a besoin de se fortifier. On sait qu'on doit se réimpliquer dans l'œuvre de Dieu. On a tantôt des passages à vide. Ce n'est pas non plus ces moments où on peut se sentir perdu spirituellement. Ça vous est jamais arrivé, ça ? Peut-être des moments où, franchement, on ne sait plus trop où on en est, quoi. Même spirituellement, on est un peu dans le brouillard, quoi. Ce n'est pas ça non plus, être tiède. Être tiède, mais c'est ce qu'on a vu, c'est un état d'aveuglement. C'est un état d'indifférence. C'est une sorte d'anesthésie spirituelle, mais dans lequel on se trouve bien. Vous voyez la différence ? Il y a des moments où on est un peu perdu. Il y a des moments où on se sent qu'on n'est pas au top. Mais on n'est pas forcément satisfait de la situation. Le tiède, c'est celui, il est complètement anesthésié. Il ne ressent plus rien, il est complètement indifférent. Il dit, oh, tout va bien, tout va bien. Mais lui-même, il a même plus de... Il est bien comme ça. Il est complètement anesthésié, il ne ressent plus rien. Il est même pas conscient qu'il est vide, qu'il est pauvre, que spirituellement c'est le vide intersidéral. Mais il est satisfait de cette situation-là. Ça, c'est un tiède. Ça, c'est un tiède. Alors, ne laissons pas le diable nous murmurer de faux mensonges quand on connaît des moments d'un peu de nécessité de renouvellement et que lui voudrait tout simplement nous faire croire qu'on est complètement en dehors de la vie avec le Seigneur. Je connaissais j'ai eu l'occasion d'entendre une discussion entre deux chrétiens. Un qui était jeune converti, ça fait quoi ? C'était peut-être 2-3 ans qu'il était baptisé. Et puis un frère qui était plus ancien, qui a plus d'expérience. Et ce jeune converti, il lui disait, mais je suis malheureux, vraiment, le Seigneur ne doit pas m'aimer, je suis pas bien dans ma vie spirituelle, je prie pas comme il faut, je suis pas assez à fond, vraiment, j'aime pas le Seigneur comme il faut, vraiment, c'est... Il dit, mais pourquoi tu dis ça? Je sens bien que le Seigneur, il va être déçu de moi parce que je l'aime pas comme il faut, parce que je cherche pas assez sa face, parce que j'aimerais faire plus et j'y arrive pas. Il dit, mais attends. Le seul fait que tu aies le désir de lui plaire, ça montre que tu l'aimes. Et là, le jeune, ça fait tic, un déclic dans sa tête. Le diable est toujours celui qui veut nous évaluer par rapport à nos œuvres, à nos actions. Alors que Dieu n'est pas du tout celui qui nous évalue par rapport à nos œuvres et nos actions. Mais il nous évalue par rapport à la motivation de nos cœurs et à nos aspirations. Et la notion d'aveugle, c'est pareil. C'est pas une question de capacité, mais c'est une question de disposition de cœur. Avec Dieu, ce qui est bien, c'est qu'il ne s'arrête pas à faire juste une critique et puis à tourner le dos et à dire débrouillez-vous, mais il a toujours une solution. Je te conseille d'acheter de l'or éprouvé par le feu en 1 Pierre, chapitre 1, verset 7. Il compare l'or éprouvé à la foi. L'or éprouvé à la foi. Pour ceux qui savent que dans leur vie, ils sont vides, mais ils s'en satisfassent, c'est que bien souvent, ils n'ont plus de contact avec la parole de Dieu qui, elle, suscite la foi. Je te suscite et je t'encourage à prendre des vêtements blancs. Et Apocalypse chapitre 19 verset 8 nous dit que les vêtements blancs c'est les œuvres justes des saints. Les œuvres justes des saints. Nous devons aussi nous impliquer dans les œuvres justes. Alors il n'est pas question de faire des exploits, mais vivre dans la sainteté, vivre dans la pureté. Ça revient un petit peu dans Deux Chroniques, qu'il se détourne de ses mauvaises voies. On ne retrouvera jamais une sensibilité spirituelle si en même temps, nous ne pratiquons pas les œuvres justes des saints. La générosité, la bonté, la pureté, la sainteté. Alors bien sûr, on n'est pas sauvé par les œuvres. Mais les œuvres témoignent de notre foi. La foi sans les œuvres, elle est morte. Et bien sûr, on ne peut pas non plus se targuer uniquement de nos œuvres. Dans une autre église d'ailleurs, Jésus va dire « Mais je connais tes œuvres, elles sont admirables !» Tu passes même pour être vivant. Mais tu es mort en fait au-dedans de toi. Et donc c'est ça. Il faut faire les œuvres justes. Il faut faire les œuvres bonnes. Il faut faire les œuvres. Il faut se revêtir de ce vêtement extérieur visible. Parce qu'on ne peut pas dire « Oh Seigneur, Seigneur, Seigneur » et pas de fruits. C'est n'importe quoi. C'est... Dans une relation conjugale, c'est pareil. Tu ne peux pas te dire « Oh je t'aime, je t'aime, je t'aime » et puis je suis jamais à la maison. Quoi. Ou je ne prends pas le temps. Ou je ne fais rien pour te montrer. Il faut les actes. Et on sait que les actes ne suffisent pas, il faut aussi le cœur. Je t'invite également à mettre du collyre sur tes yeux. Les yeux dans la parole évoquent souvent notre vision, notre regard des choses, notre perspective, nos projets. Pour ne pas dire même notre projection, notre orientation. Là, la situation de cette église qui était dans la tiédeur, elle était complètement aveugle sur elle-même, aveugle sur l'œuvre de Dieu, aveugle sur Dieu lui-même. Et il dit, je t'invite à mettre du collier. Qu'est-ce qui peut rendre notre vue? Qu'est-ce qui peut redonner de la clarté? Qu'est-ce qui peut redonner de la compréhension de ce que l'on est réellement? Qu'est-ce qui peut donner? J'étais content cette semaine, j'ai fait une visite, enfin une visite, ouais. Et la personne m'a dit, ce que j'ai réalisé en 2014, c'est qu'on avait besoin d'un réveil. J'ai dit, alléluia, des yeux se sont ouverts. Et oui, on peut comme ça vivre notre vie spirituelle et puis... Et puis à un moment, on ouvre les yeux sur quelque chose d'essentiel, d'important. J'ai réalisé que j'ai un besoin d'un renouvellement spirituel. Vous connaissez l'histoire de
La conversion de... Enfin, de Paul ou de Saül, je sais plus comment il faut l'appeler, quoi, à ce moment-là. Hein. Il tombe de cheval, on l'amène à Damas, il reste 3 jours dans le jeûne à la prière, et là, l'Esprit de Dieu trouve quelqu'un qui entretient cette relation avec son Dieu, Ananias, et Dieu lui dit, va dans la ville, là, tu vas voir Saul, tu lui imposes les mains, et tu lui dis que ce sera un instrument. Ok, il y va, pose les mains. Et voilà ce qu'il lui dit. Saul, mon frère, le Seigneur Jésus t'est apparu sur le chemin par lequel tu venais, m'a envoyé pour que tu recouvres la vue et que tu sois rempli du Saint-Esprit. Au même instant, il tomba de ses yeux des écailles, il retrouva la vue. Vous voyez la relation ? Je t'impose les mains afin que tu retrouves la vue et que tu reçoives le Saint-Esprit. La seule chose qui nous redonne de la vue, de la clarté, de la compréhension, de la vision, de la projection, des projets, c'est la présence du Saint-Esprit. La présence du Saint-Esprit. On a besoin de la parole pour la foi. On a besoin des œuvres justes parce que ça fait partie de notre vie, ça doit faire partie de notre témoignage, parce qu'on doit être saint, mais on a besoin également d'être rempli du Saint-Esprit, de recevoir, d'être animé, d'être éclairé par le Saint-Esprit. Alors, jusque-là, je n'ai rien dit de nouveau, n'est-ce pas ? Tout le monde le savait. Et la question, c'est de se dire, mais comment ? Comment arriver à ça ? Comment est-ce que, effectivement, on dit depuis le début qu'on a besoin de vivre ça, mais comment le vivre concrètement ? Au verset 19, on a la suite. Moi, je reprends, je châtie tous ceux que j'aime. Aie donc du zèle et repens-toi. Une autre traduction dit, secoue donc ton indifférence, ranime ton zèle et change. Secoue ton indifférence. Reste pas là complètement endormi, ne reste pas là complètement anesthésié. Arrête de te satisfaire de ton vide intérieur. Arrête d'être satisfait de ce que tu n'es rien au-dedans de toi. Arrête de te satisfaire d'être aveugle. Comment tu peux dire je suis riche, je me suis enrichi, je n'ai besoin de rien? Mais comment tu peux rester dans une indifférence ainsi? Et c'est ça que dit le verset 19. Aie donc du zèle et repens-toi. Le Seigneur t'ordonne d'être rempli. Le Seigneur t'ordonne d'être puissant. Le Seigneur t'a tout accordé. Et toi, tu dis, oh, c'est bon, j'ai besoin de rien. Mais ce n'est pas une prédication qui vous secourra. C'est nous-mêmes. C'est nous-mêmes. Nous avons besoin de nous secouer. Nous avons besoin de sortir de notre indifférence. On a besoin à un moment donné, je fais quoi dans ma vie? J'en suis où? Qu'est-ce qu'on préfère? Être vomi? Dire, oh mais mince, pourtant j'étais bien, j'éprouvais rien de particulier, mais oui, tu t'es complètement anesthésié par ton péché, anesthésié par ta mollesse, anesthésié par ton manque de foi, anesthésié par ton manque d'appétit spirituel. Tu te rendrais même complètement indifférent, hermétique, on va avoir un exemple tout à l'heure. Mais jusqu'à quand est-ce qu'on va vivre comme ça? Heureusement que l'écriture est là, pour dire, oh, secoue ton indifférence, ranime ton zèle, échange. Dans la vie, il faut adopter des changements. Si vous êtes comme moi, on doit changer souvent. Parce que personnellement, j'ai la faculté de toujours prendre le chemin de la facilité. Donc hop, il faut que je me ressaisisse régulièrement. Bon, je suis peut-être un très mauvais chrétien, je vous le confirme. Mais pour ceux qui seraient dans le même cas, on a besoin de... C'est comme dans une voiture, n'est-ce pas? On a besoin souvent de bouger le volant, même si la ligne est droite, on maîtrise le volant, quoi. On peut pas rester les bras rigides comme ça et... Oh, mais la route, elle est droite! Et on fait ça au tout début quand on conduit, hein. Et là, il y a le mur qui se rapproche, on ne sait pas pourquoi, pourtant je suis... Mais dans la vie spirituelle, c'est pareil. Si on est rigide, si on a... Oh, pas, non, c'est bon, c'est comme ça! Mais on va droit dans le mur. Pourquoi est-ce que Dieu est si sévère? Pourquoi est-ce que Jésus est si sévère? C'est pas son habitude quand même de parler comme ça. Je vais te vomir de ma bouche. Oh! C'est pas sa manière d'être. On sait pourtant que quand Jésus parle, c'est pour dire vrai. C'est vrai qu'il n'est pas là pour mentir, il n'est pas là pour tromper. Mais pour utiliser des images aussi fortes, C'est pas dans son habitude. Surtout à l'égard des chrétiens. Les paroles les plus dures qu'il a réservées, c'était pour les religieux, qui étaient vraiment incrédules. Là, il avait des paroles fermes. Il est, ouais, je veux pas dire insulté, c'est pas le terme, mais il traitait d'hypocrite, de sépulcre blanchi. Mais vous avez des apparences. C'est vraiment pour les religieux les plus incrédules qu'il a eu les propos les plus forts, mais rarement pour les églises. Je te vomirai. Pourtant, l'image, elle nous dégoûte tous. Tout simplement parce que quand on est tiède, ce n'est bon pour personne. Ce n'est pas bon pour soi-même. Parce que même si on dit « Oh, ça va, je n'ai besoin de rien », c'est faux. Au fond de nous, il y a un vide. Au fond de nous, il y a une insatisfaction. Alors c'est vrai, reconnaissons-le. Au début, ça peut paraître opposant de moins chercher la face de Dieu. Mais c'est ça là, le côté dégoûtant de la tiédeur. C'est qu'on finit même par se satisfaire de cette tiédeur et de cette mollesse spirituelle. On n'est pas satisfait, mais on se satisfait de cette non-satisfaction, quoi. On n'est pas comblé, mais on finit par accepter le fait que, bon, voilà, c'est pas plus que ça, et puis ça va. Oui, je pourrais être le temple du Saint-Esprit, mais ça me suffit d'être le temple de rien. Et honnêtement, sachons-le, il y a... De toute façon, il n'y a pas de progrès s'il n'y a pas d'ambition dans nos vies. Il n'y a pas de progrès s'il n'y a pas d'ambition. Et le Seigneur, ce qu'il nous a donné, c'est par moins que rien que son esprit. Ce n'est pas bon pour la personne qui, de toute façon, finira par être littéralement insatisfaite et perdre son salut. Ce n'est pas bon non plus pour l'Église. C'est pas bon pour l'Église. Là encore, hein, je le répète, je ne veux pas stigmatiser des personnes, mais je crois qu'on a tous vécu les mêmes choses, ici ou ailleurs, qu'importe. Où on sentait que l'Esprit de Dieu était là, mais il était comme étouffé, retenu. On a sûrement tous vécu ces réunions où on allait à l'église et chape de plomb, quoi, une sorte de... On aurait même voulu, on était disposé, mais comme quelque chose qui venait étouffer, écraser, ramollir, refroidir l'atmosphère. J'ai même connu une fois dans une réunion de prière, c'était la pire de toute de ma vie, hein. Je vais à la réunion, là, alors normalement c'était une soirée de veillée, je crois. Alors j'y vais. T'es content d'y aller ? On a pas commencé à, je sais pas, à 5, 6, je sais pas, et puis un est parti, puis deux est parti. Puis je crois que, au bout d'un moment, il y en avait un. Enfin, il y avait une personne qui était restée, elle ouvrait jamais la bouche, depuis le début. Il y en avait un autre là, il était comme ça. Donc j'ai compris qu'il dormait en fait. Et il y en avait un qui se levait. Il s'absentait 10 minutes, il revenait, il restait 2 minutes. Non, je vous assure, c'est la pire réunion de prière de ma vie. Alors, c'est, avec le recul, j'en rigole un petit peu. Mais sur le coup, j'ai compris ce que signifie le mot tiédeur. J'ai compris ce que signifie le mot tiédeur. Et ce n'est pas bon pour la personne. Mais si Dieu dit « Je te vomirai de ma bouche », je crois également que le cœur de Dieu est littéralement saignant quand dans son église, à cause de la tiédeur, son propre esprit est complètement étouffé, pour ne pas dire écrasé. Il faut que nous soyons conscients, non pas de stigmatiser des personnes, mais de réveiller des états de cœur, des mentalités que nous devons vraiment secouer. Nous devrions refuser l'ennui dans nos réunions de prière. Nous devrions les refuser. Nous devrions refuser des états où on est là à moitié anesthésié. On devrait vraiment les haïr, les rejeter plus que tout.
plus que tout. Mais ça, c'est une mentalité. Ça, c'est un engagement, c'est un désir de chercher la face de Dieu. Seigneur, c'est ta présence que l'on veut. C'est pas seulement notre présence à nous, et puis on va voir ce qui va se passer. Mais on va te rechercher, on va te désirer. Je ne viens pas seulement à la réunion pour faire entendre ma voix ou pour adresser ma liste de requêtes. Mais Seigneur, je viens chercher ta face. Et quand il y a cette dimension-là, quand il y a une recherche de la présence de Dieu, plus que tout, Seigneur, c'est pas ta main que je veux, mais c'est ton cœur. Alors les réunions ne sont plus ennuyeuses. Alors il y a un désir. Il n'y a plus cette apathie de satisfaction. Dire, bon, bah, ça va le faire de toute façon. Il y a véritablement une recherche. Ce n'est pas bon non plus. Je parle encore de la tiédeur. La tiédeur n'est pas bon pour les gens qui nous entourent. Des études montrent, passer les détails, que ce que nous communiquons passe essentiellement et davantage par notre attitude que par ce qui sort de notre bouche. Oui, on peut dire, oh, tu sais, j'aime le Seigneur. Ah oui. Mais tout le reste du corps dit, oh, tu sais, avec le Seigneur, ouais, quoi, je vais à l'église, quoi. Mais le Seigneur, oui, il y a quelqu'un qui disait, brûlez, le monde viendra vous voir brûler. Mais si nous sommes tièdes et mollassons, si dans notre propre expérience personnelle, nous n'avons pas de pétillement quand on parle du Seigneur, qu'est-ce que vous voulez que les gens aillent voir ? Rien. Quelqu'un de tiède dans sa propre vie spirituelle, dans son propre cœur, dans son propre épanouissement, s'il est là. Enfin, épanouissement, est-ce qu'on peut même plus parler d'épanouissement quand on est dans cette situation de tièdeur ? N'est pas bon non plus pour ceux qui nous entourent, parce que les gens qui nous entourent, ils sentent s'il y a une véritable vie, s'il y a un véritable enthousiasme, s'il y a une véritable relation avec Dieu. Ils le sentent. Ils le sentent et ils le ressentent. D'ailleurs, c'est toujours lié. Quand on ne vit plus grand-chose avec le Seigneur, on a moins de spontanéité aussi à témoigner. Ben oui. Parce que quand dans notre cœur, il y a plus d'expérience, il n'y a plus d'enthousiasme, il y a moins de relation avec le Seigneur, alors il y a moins aussi de spontanéité à dire ce que le Seigneur a fait dans notre vie. C'est lié. Nous devons rejeter la tiédeur. Je l'invite à lire un exemple dans le deuxième livre des Rois. Nous avions déjà évoqué cet exemple il y a quelque temps, mais nous n'avions pas pris le temps de nous arrêter et de lire le récit. Deux Rois, chapitre 13. Verset 14. Deux Rois, chapitre 13, verset 14. Élisée était atteint de la maladie dont il mourut. Et Joas, roi d'Israël, à ne pas confondre avec le roi de Juda, le roi d'Israël, descendit vers lui, pleura sur son visage. Ah, alors, déjà, ça veut dire que Joas, il aime bien Élisée, quoi. Il y a un côté affectif. Et dit, « Oh, mon père, char d'Israël et ma cavalerie !» Signe de tristesse et de déception, de savoir qu'Élisée est allé mourir. Élisée lui dit, « Prends un arc et des flèches. » Et il prit un arc et des flèches. Puis, Élisée dit au roi d'Israël, « Bande l'arc avec ta main. » Et quand il l'eut bandé de sa main, Élisée mit ses mains sur ses mains, sur les mains du roi. Et il dit, ouvre la fenêtre à l'Orient. Il l'ouvrit. Élisée lui dit, tire. Et il tira. Élisée dit, c'est une flèche de délivrance de la part de l'Éternel. Une flèche de délivrance contre les Syriens. Tu battras les Syriens à Afek jusqu'à leur extermination. Élisée dit encore, prends les flèches. Et il les prit. Élisée dit au roi d'Israël, frappe contre terre. Et il frappa trois fois. Et s'arrêta. L'homme de Dieu s'irrita contre lui. Et dit, mais il fallait frapper cinq ou six fois. Alors tu aurais battu les Syriens jusqu'à leur extermination. Maintenant, tu les battras trois fois.
Élisée mourut. Qu'est-ce que nous raconte cette histoire? Mais la consternation? La consternation de quelqu'un qui, effectivement, il aime bien son pasteur. Oh oui, pasteur, c'est... Oh, vous êtes malade, pasteur, oh là là, oh là là, vous allez nous regretter, tu parles, oh là là, char d'Israël, pauvre Élisée, moi je t'aime bien, tu sais. Élisée, tiens, allez. Et là, Élisée fait rentrer Joaz, normalement, dans ce que nous aurions dû saisir, dans celui qui comprend les choses, qui est sensible aux choses spirituelles, il est en train de le rentrer dans une dimension spirituelle. Comment ça? À toucher ses mains. Non, c'est pas commun, quoi. Imagine, vous allez voir le pasteur, il est malade, et là, il commence à vous imposer les mains, à dire, oh, mon frère, oh là là, 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 on n'est plus en train de parler de la santé, on n'est plus en train de prendre juste des nouvelles, là, on va... Et c'est Élisée qui parle, hein. C'est pas juste votre petit pasteur. Élisée! Et là, il commence à imposer les mains, à poser les mains sur les mains de Joasie. Allez, tu ouvres la fenêtre, tire cette flèche. Là, le frère, il envoie la flèche. Et là, il lui dit, cette flèche-là, c'est pas seulement une flèche que tu envoies, mais prophétiquement, c'est la victoire que tu vas remporter. Oh là, on sent qu'il y a une dimension, mais spirituelle. Vas-y, tire les flèches. Puis moi, il s'arrête. Je dis, mais elle est où, ta fougue, elle est où, ta vision? Elle est où ta projection? Pourtant là, Joaz, il est dans une situation où l'homme de Dieu lui communique la parole de Dieu. Il a une prière particulière. Il lui est en train de lui donner des promesses de victoire. Et le gars, il paraît complètement indifférent. Complètement hermétique. Il ne se laisse pas toucher par la parole de Dieu. Il ne se laisse pas toucher ni encourager. Même si il paraît comme aveugle de la situation. On dirait qu'il ne comprend pas ce qui est en train de se passer autour de lui. Pourquoi? Parce qu'il est tiède. Il est tiède. Il entend bien. Il sent bien. Mais à l'intérieur de lui, c'est comme si tout était verrouillé. Oh, ça va. Oh, trois flèches, ça suffit. Mais on se demande, mais qu'est-ce qui se passe dans ta tête? Un manque de foi, un manque de motivation, un manque d'implication. Il n'y a pas de réaction. Il n'y a ni joie, ni déception. On ne voit pas comme il a pu se passer dans d'autres situations. Comme le peuple, par exemple, à un moment, Moïse dit allez à la guerre, il dit oh non, on ne va pas y aller. Après, il y a une manifestation de Dieu, après, il dit oh, on va y aller, on va y aller. Au moins, ils réagissent, au moins, ils prennent conscience qu'ils ont. Mais lui, là, il n'y a pas de joie, il n'y a pas d'émotion, il n'y a pas de réaction. Le Seigneur ne nous fasse jamais vivre une vie spirituelle comme ça. Il n'est même pas stimulé par une parole prophétique. Il n'est même pas stimulé par la présence même du serviteur de Dieu. Alors que Dieu, là, est en train de dire à Joas qu'il a des projets. Des projets. Comment réagissons-nous quand on parle de réveil? Qu'est-ce qui se passe dans notre cœur? Quel déclic? Qu'est-ce qu'il y a ou il n'y a pas? Quand la parole de Dieu nous parle de visitation, de présence de son cœur, de ses yeux, qu'est-ce qui bouillonne dans notre cœur? Quelle aspiration est en train de mourir, de grandir dans notre cœur? Quand on lit la parole et qu'il y a là ces dons qui sont en réserve, quand la parole de Dieu nous parle de conversion, quand il nous parle de transformation de vie, quand il nous parle là d'hommes et de femmes qui sont touchés par la grâce de Dieu, qu'est-ce que ça anime dans notre cœur? Si notre cœur n'est pas animé au quotidien, de vouloir vivre plus. S'il n'y a pas de projection de la grâce de Dieu dans notre vie, alors je crois qu'il y a quelque chose à faire. Alors, on n'est pas seul dans cette histoire. On n'est pas seul dans cette histoire. Dans la suite de Apocalypse, chapitre 3, Jésus se tient et dit, voilà, je me tiens à la porte et je frappe. Le premier qui veut nous secourir dans notre état d'indifférence, le premier qui veut nous toucher dans notre état de, j'ai envie de dire, d'imperméabilité, c'est le Seigneur lui-même. Et on voit là toute la délicatesse, parce qu'il voit bien que le cœur du tiède est fermé. Il voit que c'est fermé, il voit que c'est vraiment... Mais, presque barricadé, quoi. Il est vraiment hermétique. Il ne peut même pas y passer le petit doigt. Tout ce que Jésus peut faire, c'est
Il appelle. Et il toque. Il dit, si tu entends ma voix, si au moins tu permets au murmure de l'esprit que l'on accepte par la foi, si on commence à être sensible, si quelqu'un entend ma voix et ouvre son cœur, le premier qui peut véritablement faire quelque chose là dans votre cœur, c'est d'abord de retourner dans cette intimité avec le Seigneur, retourner dans cette sensibilité spirituelle. Parce que je sais, parce qu'on a tous le même Dieu, que jour après jour, le Seigneur cherche à vous parler. Tous les jours, tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Et bien sûr, si on n'est pas dans l'apprentissage, si on n'est pas sensible, on peut passer outre. Mais si un instant, on reconnaît qu'on est complètement hermétique à toutes ces choses spirituelles, et qu'on commence à dire, mais oui, moi aussi j'aimerais vivre quelque chose de plus. Moi aussi j'aimerais que la main de Dieu puisse me toucher. Moi aussi j'aimerais qu'il y ait cette présence dans ma vie. Alors vous allez faire un peu plus attention. Et vous allez sentir que le Seigneur toque à votre porte. Vous allez entendre sa voix qui va vous appeler. Si quelqu'un ouvre, alors là il y a encore ce face-à-face. Je rentrerai, je souperai avec lui. Là, on est face à face quand on mange avec quelqu'un. Et on comprend encore que quand Dieu dit « Si mon peuple cherche ma face », ce n'est pas une option. C'est pas seulement prier pour faire des requêtes, mais c'est véritablement là avoir un vis-à-vis, les yeux dans les yeux, quelque chose, un contact personnel. C'est bien d'avoir les gens au téléphone, mais rien ne remplace le visuel. On distingue dans les traits du visage ce qu'il y a dans son cœur. Le visage, c'est le reflet de notre âme, dans les yeux. Et c'est ce que le Seigneur veut que l'on vive avec lui. Nous ne sommes pas seuls. Il y a aussi l'Église. Et l'Église est un puissant soutien. Un puissant soutien pour ceux qui ont peut-être justement du mal à trouver le chemin de ce face-à-face. Pour ces frères, ces sœurs qui ont peut-être du mal à rentrer dans cet apprentissage, dans cette sensibilité. Venez au rassemblement d'église, venez aux réunions de prière. Parce que le fait d'entendre un frère, une sœur élever la voix, avec joie, avec enthousiasme. On le dit, hein, on a banni l'ennui de nos réunions de prière. Amen.
Amen.
Alors quand on vient à la réunion, que même si nous on se sent sans force, et que là, il y a quelque chose, on sent de la vigueur, on sent de la joie, on sent de l'enthousiasme. Alors quelque part, on ne peut pas se dire à un moment, il n'y a rien du tout. À un moment aussi dans son cœur, on doit se dire, mais j'aimerais aussi vivre ça. Moi, je crois à la contamination, mes bien-aimés. Et pas seulement des mauvais virus. Je crois aussi à la bonne contamination. Je crois que quand on est auprès d'un frère, auprès d'une sœur, qui élève sa voix avec ferveur, bah ça ne la cesse pas indifférent. Je crois que quand on sent dans la vie de quelqu'un qu'il a une vie avec le Seigneur, que malgré ses découragements, hop, il remonte. Que malgré les difficultés, hop, il remonte. Que malgré la maladie, hop, il a la joie du Seigneur. Alors que malgré que sa vie est peut-être pas meilleure matériellement que nous, mais il y a quelque chose qui fait que il a du ressource, du punch, de l'envie spirituelle. Ben, je crois que ça donne envie, non? On n'est pas seul. Il y a le Seigneur lui-même, il y a l'Église. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, quand on lit le Nouveau Testament, l'accent est beaucoup mis sur la vie communautaire des chrétiens. Sur la vie communautaire des chrétiens. Le problème que l'on a en France, c'est qu'on s'aperçoit que les chrétiens prient personnellement de moins en moins. Et en plus, il néglige de plus en plus les réunions d'église. Et après on se dit, mais pourquoi en France c'est si difficile? Oh la France, vous savez, pour amener les âmes. Mais c'est pas un problème des âmes. Et si le problème ne venait pas plutôt du peuple qui invoque le nom de Dieu? Si mon peuple sur lequel est invoqué mon nom s'humilie, prie, cherche ma face, se détourne de ses mauvaises voies, alors je l'exaucerai. Et là sera mon cœur, là seraient mes yeux. Alors nous, on est les champions de l'individualisme. Oh, j'ai pas besoin de la prière des autres, je vais prier tout seul. Pas qu'à la réalité, la propre vie de prière personnelle, et elle est un peu maigronnette. Et en plus, on s'appuie pas sur la vie communautaire. Alors qu'est-ce qui reste? Des miettes. Ben oui, des miettes. Le but de la vie communautaire n'est pas forcément d'être communautaire, mais c'est de s'édifier, de s'exhorter, de se contaminer mutuellement. On a droit de venir à l'église même quand le cœur n'y est pas du tout. Mais oui, je vous le conseille même. Mais ne venez pas avec un esprit de tiède. Dire, oh là, je viens, mais je suis complètement hermétique. Moi, ça va. Hein. Pas besoin de tout ça. Bien sûr, si vous venez comme ça, ça va être contrariant. Déjà pour vous. Et aussi pour l'église. Mais si vous venez avec ce désir, Seigneur, je veux que ça change dans ma vie. Seigneur, je veux secouer. Je veux secouer mon indifférence. Je veux ranimer mon zèle. Je veux que ça change dans ma vie. Si vous commencez déjà à formuler ça, alors ça changera. Parce que le Seigneur est le Dieu de la bénédiction. Qu'on le veuille ou non, mes bien-aimés, nous sommes foncièrement liés les uns aux autres. Le jour où vous avez accepté le Seigneur Jésus, le jour où vous êtes passé par les eaux du baptême, même si vous êtes le pire des Français, le pire des coqs, le pire des individualistes, spirituellement vous êtes associé au corps de Christ. Donc, on est, qu'on le veuille ou non, foncièrement liés les uns aux autres spirituellement. On oublie souvent de le dire, je profite de le dire maintenant, mais quand on partage la scène, il est bon de rappeler la raison pour laquelle nous partageons le pain et le fruit de la vigne, le sang et le corps de Christ qui a été rompu et le sang de Jésus qui a été versé pour le pardon de nos péchés et pour la guérison. Mais Paul ne dit pas que ça dans son épître. Je vous lis le verset qui se trouve au verset 29. Celui qui mange et boit sans discerner le corps de Christ mange et boit un jugement contre lui-même. En français courant, je vous le lis, c'est plus explicite. Ainsi, si quelqu'un mange du pain et boit de la coupe sans reconnaître leur relation avec le corps de Christ, il attire ainsi le jugement contre lui-même. Qui est le corps de Christ? C'est nous. Donc quand on prend la scène, on se rappelle de ce que Jésus a fait. Amen. Mais Paul dit aussi, mais celui qui prend ça sans discerner sa relation avec qui il partage ce pain, parce que c'est ça que ça veut dire, il s'attire sur lui-même un propre jugement. Et c'est pourquoi je vous dis qu'on a besoin de vivre un renouvellement spirituel. Amen. Qu'on a besoin de vivre un renouvellement spirituel personnel. Amen. Mais on a besoin aussi de revivre ce renouvellement spirituel en commun. Parce que si, dans nos propres vies, on s'exclut de cette relation spirituelle, on s'exclut de cette réalité que nous sommes le corps de Christ, si on se dit, oh, je vais à l'église, mais parce que bon, voilà, c'est ouvert, et puis je vais... Non, non, c'est pas ça du tout. Quand tu prends la scène, tu te rappelles que t'es lié à ton frère, que t'es lié à ta sœur, que tu le contamines et qu'il te contamine. On s'échange nos virus. Et il y a un virus qui est très mauvais, c'est le virus de la tiédeur. Parce que c'est quoi le virus de la tiédeur? Je m'enferme, je suis dans ma bulle, je veux pas du tout me laisser toucher par la grâce de Dieu, je veux pas me laisser me toucher du tout par le frère, je veux pas me laisser du tout influencer par ce qui pourrait bouleverser ma vie. Et là, on se coupe du corps de Christ, on se coupe de Christ lui-même, et on devient là, au milieu du corps, comme une sorte de schiste, de blessure, de séparation. Nous sommes foncièrement liés les uns aux autres par l'esprit. J'ai besoin de vous. Tu as besoin de ton frère, tu as besoin de ta sœur. Nous avons besoin les uns des autres. Et c'est ensemble, dans cette compréhension que nous sommes intimement liés les uns aux autres, qu'on va pouvoir avancer. tous les exemples que l'on a dans le Nouveau Testament. C'est le peuple qui était réuni, c'est le peuple qui cherchait la face de Dieu, c'est le peuple qui s'humiliait, c'est le peuple qui était d'une même voix, c'est le peuple qui était tous ensemble visités par le même esprit. Et c'est ça qu'on a besoin de vivre ensemble, mes bien-aimés. Et quand l'Église vit ça, alors là, il va se passer comme à la Pentecôte. Les gens vont venir voir qu'est-ce qui se passe. Alors là, on a plus d'enthousiasme pour inviter les amis, n'est-ce pas? Alors là, il y a plus de hardiesse à tout, parce que quand on est retrouve ce face-à-face avec le Seigneur, quand il y a ces temps de visitation, quand il y a tous les cœurs qui sont ouverts, qui disent « Seigneur, on s'en fiche de ce que tu exauces ou pas, mais tout ce qu'on veut, c'est plus de toi, c'est ton onction, c'est ta joie, c'est ta profondeur, c'est ce cœur à cœur, je veux sentir que mon cœur explose, je veux sentir qu'il y a ta visitation là dans mes tripes, je veux sentir que tu m'aimes, je veux sentir ma petitesse et te sentir remplir tout mon être. » Alors là, notre vie personnelle et notre vie communautaire est complètement transformée. La semaine prochaine, on va voir, justement, être rempli. Mais rempli de quoi? Pourtant, il y a plein de passages qui nous appellent à être remplis. Remplis, c'est comment rempli? Mon épouse, hier, elle se plaignait parce qu'elle avait ouvert une bouteille d'eau et ça débordait. Ça nous est tous arrivé, ça? Non? Ah bah, il faut acheter Eco Plus. Ah, elles sont formidables ces bouteilles, c'est bien serré, et quand tu ouvres, si t'as le malheur de serrer un peu, t'en as plein les doigts. Ça c'est rempli. C'est pas comme qu'on va au café, qu'on dit oh un café s'il vous plaît, il t'amène une petite tasse comme ça, et t'as plus de vide que de plein. Ça c'est pas rempli là. Si je dis j'ai demandé un café, oui c'est le café. Ah d'accord. C'est le truc au fond là. Non, c'est rempli, c'est prêt à déborder. Mais on verra ça la semaine prochaine. Ne soyons pas indifférents aux appels de Dieu, je vous en supplie. Ne soyons pas indifférents. Gardez, si vous le voulez, cet exemple de ce Joas là. Il est auprès de l'homme de Dieu l'interpelle, il touche les mains, et lui, il paraît, je sais pas, anesthésié. Ne soyons pas indifférents. Ne soyons pas hermétiques à la présence de Dieu, mais élargissons, laissons la voix de Dieu aller jusque dans notre cœur. Ne soyons pas imperméables à son amour, mais touchez. Laissez-vous la oindre par l'amour de Dieu. Soyons au contraire remplis de désir, remplis de motivation. Allez, j'espère que vous allez comprendre le mot, mais rempli de rêves, rempli de projections, rempli de visions. Seigneur, c'est ça que je veux. Ouvrons nos yeux sur les promesses de la parole de Dieu. Oui, sentons notre misère, qu'importe. Mais cherchons à être enrichis de la présence de Dieu. Cherchons, mes bien-aimés, cherchons la face de Dieu. Cherchons la face de Dieu dans notre chambre. Cherchons la face de Dieu ensemble. Amen.